9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue. Ibtissem Belmadadine est avec nous. Bonjour Ibtissem.
Bonjour à tous.
Masseur kinésithérapeute libérale, membre de la Société médicale d'orthopédie dento-maxillofaciale.
Tout à fait.
Et on va en parler justement aujourd'hui. Nous allons parler d'un syndrome méconnu, mais pourtant très courant. C'est le syndrome de Saddam. Qu'est-ce que ça veut dire, Saddam ?
Alors, c'est le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est en lien avec les douleurs et les dysfonctions de l'articulation temporomandibulaire, qui se situe juste à l'articulation de la mâchoire.
D'accord.
C'est avec laquelle on parle, on s'exprime, on mange.
Et dont les répercussions sur la santé sont courantes, et on va voir, elles sont nombreuses. J'aimerais qu'on parle d'abord de la mâchoire, pour commencer. C'est une articulation placée à un carrefour de plusieurs régions.
Mm-mm. Alors en fait, elle relie le crâne avec la mandibule, donc le bas de la mâchoire, et avec le cou, donc les épaules, et le reste du dos. Donc effectivement, elle est au carrefour de toutes ces articulations.
Voilà, articulation complexe, il y a des muscles partout en plus.
Tout à fait, il y a tous les muscles du visage, les muscles du cou, les muscles de l'arrière aussi, des cervicales. Mm-hmm. Et ça va même jusqu'au niveau de la clavicule et au niveau des premières côtes et des vertèbres dorsales.
C'est également une zone très émotionnelle. Mm. Et il y a cette expression qu'on emploie souvent, c'est « serrer les dents ».
Oui. Ce qu'on appelle le bruxisme communément en médecine.
Mais quand on serre les dents dans la journée, on n'est pas forcément en train de bruxer.
Pas forcément, non, parce qu'en fait, il y a un bruxisme qui grince, donc on frotte, donc c'est décentré. Et quand on s'est juste serré tout simplement, c'est un bruxisme à ce moment-là qui est centré. Voilà.
Alors, le Saddam, c'est quoi ? C'est un dysfonctionnement de la mâchoire ?
Alors, c'est un mix, en fait. Ça peut être tout simplement des douleurs. Comme ça peut être aussi une dysfonction mécanique, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une articulation qui a une mobilité standard, on va soit avoir une hyper mobilité au niveau de l'articulation temporomandibulaire, par exemple quelqu'un qui bâille, ça craque, il a une ouverture de bouche qui est trop grande, comme quelqu'un
Attendez, quand vous dites ça craque, on entend vraiment un craquement.
Enfin, alors, on entend soit un claquement. Ou claque au moment de l'ouverture ou de la fermeture de bouche, en fonction de si le déplacement articulaire il est au niveau du disque qui se trouve dans l'articulation ou au niveau du condyle. Alors, pour rappel anatomique, l'articulation temporomandibulaire, elle est constituée, donc, comme on avait dit, de l'os du crâne, donc la partie supérieure de la mâchoire, avec la partie inférieure, donc la partie inférieure de la mâchoire, qui se rejoignent avec ce qu'on appelle un conduit, c'est comme une forme de boule qui va s'insérer dans une cavité. Et entre les deux, vous avez un disque qui est en forme de diabolo, avec une partie fine au centre et une double partie arrondie sur les côtés. Et en fait, ce disque, quand par exemple on va ouvrir grand la bouche, il peut glisser, parce que c'est quelque chose de gélatineux, il peut glisser en avant et ne plus pouvoir se replacer à l'intérieur de l'articulation. Donc là, on parle d'une luxation au niveau du disque.
C'est pas automatique. Il revient pas forcément dans sa cavité.
Non, parce qu'il est relié par des muscles et des ligaments, et en fonction de l'hypermobilité ou l'hypomobilité de ces ligaments ou de ces muscles, il peut se déplacer de son endroit, de sa cavité en fait.
Mmh. Voilà. Ça, c'est une des possibilités ou c'est la seule possibilité.
L'autre possibilité, c'est qu'à ce moment-là, c'est un déplacement du condyle, ce qu'on appelait la partie supérieure de la mâchoire inférieure. Donc ce condyle, il va lui glisser sous le disque et pareil, ne pas pouvoir revenir se réintégrer à l'intérieur de la cavité dans laquelle il se situe. En gros, il faut imaginer que c'est comme ça, ça fait une boule qui s'emboîte dans un creux. Et quand cette boule, elle ne se réinsère pas dans le creux, à ce moment-là, elle reste mal placée et on ne peut plus refermer la bouche.
Ça arrive. Là, on le sent.
Voilà, on le sent.
Ouais, oui. c'est symptomatique, on va dire.
Évidemment. Voilà, on le sent, ça gonfle. De toute façon, que ce soit discal ou que ce soit condylien, le déplacement, de toute façon, ça va créer une inflammation. Parce que c'est quelque chose qui ne se remet pas à la bonne place. Donc forcément, ça va créer plus de tension au niveau des ligaments, au niveau des muscles, etc. Et donc du coup, une inflammation qui va se créer. Et donc, une douleur.
Voilà. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en train de se demander s'ils ont la mâchoire à la bonne place, est-ce qu'il y a un exercice qui permet de s'en assurer ?
Bah, tout simplement, doucement venir placer ses doigts au niveau des oreilles. Là, on sent que ça bouge quand on ouvre et on ferme la bouche. Et en fait, placer ses doigts des deux côtés et doucement ouvrir la bouche. Et sentir si quand on ouvre la bouche, ça se décale à droite ou à gauche, ou si quand on ouvre, on sent un craquement ou un claquement. Voilà, donc que ce soit un décalage droite-gauche, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, ça va faire quand on ouvre.
Alors là, vous êtes en train de mimer.
Vous venez à la vidéo.
Donc, vous êtes en train de mimer, parce que là, effectivement, vous faites un peu le poisson rouge, que vous faites assez bien.
Oui, oui, ça, je fais très bien.
Voilà.
Donc, et quand on ferme pareil, ça peut faire un claquement ou un craquement, et ça peut se décaler à droite et à gauche. Donc là, à ce moment-là, et de toute façon, même sans sentir forcément le claquement ou le craquement, on va sentir une douleur au moment où on ouvre ou on ferme. Cette douleur ne devrait pas exister. Donc c'est que déjà il y a une dysfonction et qu'il y a une problématique au niveau de cette articulation.
Mais beaucoup de gens en souffrent et ne vont pas se faire diagnostiquer. Donc j'imagine que c'est asymptomatique.
Oui, alors. Ça,
parce qu'une grande
partie
de gens qui souffrent d'un SADAM, aujourd'hui, ne vont pas consulter pour ça.
Parce qu'en fait, c'est très complexe à diagnostiquer déjà auprès des soignants. Pourquoi ? Parce que ça a plusieurs facteurs. Il y a énormément de facteurs qui peuvent causer ce syndrome. Du coup, forcément, par exemple, vous allez aller voir le dentiste, il va se soucier de l'alignement des dents, des caries, de ce qui est des gencives, et il va pas forcément regarder plus au niveau de la posture. Ça, c'est plus de l'ordre du posturologue, de l'ostéopathe, etc. Donc, en fonction des spécialisations, des spécialistes chez qui vous allez aller, on va vous diriger vers telle ou telle possibilité. Et ensuite, à l'accumulation des praticiens que vous allez voir, effectivement, on va se rendre compte qu'il y a une accumulation de symptômes qui font un syndrome. Voilà.
Un syndrome, c'est une accumulation de symptômes.
Voilà.
C'est ça.
C'est ça.
Est-ce que ça peut être lié, par exemple, à un manque de dents? Ou par exemple, il y a des gens qui manquent des dents.
Tout à fait.
Que ce soit en haut ou en bas. Est-ce que finalement, on peut avoir un SADAM consécutif à un manque de dents?
Ce qui arrive couramment, ce qu'on observe couramment, par exemple, c'est au cours de l'adolescence ou après l'adolescence, par exemple, chez des jeunes, on ne va pas forcément retirer les dents de sagesse ou bien on va les retirer trop tôt ou pas correctement. Donc, ou bien quand elles sont retirées, on ne pense pas forcément à réaligner ou meuler les dents là où il faut pour que du coup, il y ait un équilibre de pression dentaire. C'est-à-dire que quand on mastique, il faut à la fois qu'on mastique à droite et à gauche et de manière homogène dans toute la bouche et en se servant bien de la langue. Si ça, c'est pas fait correctement, par exemple, on va écraser plus souvent du même côté. Donc, il y a une hyperpression qui va se faire de ce côté-là, du côté des dents sur lesquelles on mastique le plus et du côté de l'articulation temporomandibulaire aussi où on mastique le plus. Donc, se crée un déséquilibre. Il y a un côté qui se décomprime et un côté qui se comprime plus. Forcément, des douleurs peuvent apparaître parce qu'on surutilise cette zone.
Un côté, parce qu'il manque une dent ou plusieurs dents d'un côté d'un
autre. Voilà. Par rapport aux dents de sagesse, il y a eu des gestes dans le passé, je ne sais pas si ça se fait encore, qui ont été faits de manière assez brute et pas...
des boucheries, on va dire.
On va dire.
Ouais,
et derrière, où on enlevait systématiquement aussi les dents de sagesse alors que ce n'était pas forcément... nécessaire. Maintenant, il y a plus de réflexion.
C'était pour faire de la place, hein, à l'époque.
Et maintenant, il y a plus de réflexion par rapport à ça et on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire de les enlever. Et le fait de les retirer crée déjà en fond de bouche une inflammation qui était latente et qui pouvait ensuite créer une inflammation au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Ensuite, il y a le fait que, au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, si elle n'est pas correctement apprise et suivie tout le long de la croissance et à l'âge adulte, vont se créer d'autres problématiques qui vont faire que derrière, déjà, on ne voit pas suffisamment son dentiste, donc on ne peut pas forcément être au courant de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce sur quoi il faut faire attention. Et du coup, par exemple, quand on se retrouve avec une carie trop importante, pareil, au préalable, avant, on retirait la dent qui était malade.
On n'essayait pas de la sauver.
Voilà. Aujourd'hui, on sauve de plus en plus les dents atteintes. Donc ça, c'est une très bonne chose. On essaie aussi de plus en plus de garder les racines dentaires. alors qu'avant on retirait la racine, maintenant on traite sur
parce
sur
que
la partie
les
carrière.
Dentistes disent qu'ils préfèrent garder des vraies racines
parce que le
plutôt
meilleur
que d'avoir
implant,
des faux.
Le meilleur implant par la suite, c'est le nôtre. Enfin, c'est notre racine naturelle. Donc, et puis alors, du coup, si on se retrouve avec une dent qui a été retirée mais qui n'a pas été remise en place par une couronne, un bridge ou une autre possibilité ou un implant, eh bien, on va rester pendant des années, effectivement, à ne pas se servir de ce côté.
Du côté, voilà.
Voilà, où la dent est manquante. Et on va mastiquer de manière déséquilibrée. Et forcément, bah, on crée une hyperpression au niveau de l'articulation de la mâchoire.
D'accord. Alors, quels sont les symptômes qui sont liés à un SADAM ?
Alors, les symptômes qui sont liés à un SADAM sont très, très, très nombreux. Alors, la première chose, ça va être des douleurs. Des douleurs qu'on appelle des douleurs myofaciales, c'est-à-dire qui touchent les muscles, que ce soit les muscles du visage ou les muscles du cou. Et ça peut être aussi des douleurs de la face. Par exemple, on va sentir peut-être une douleur au niveau des ailes du nez. On peut sentir des douleurs dans la tête. Ça peut d'ailleurs s'apparenter à des céphalées qui vont souvent se situer à l'arrière du crâne, ce qu'on appelle l'occiput, ou juste derrière les oreilles.
Les céphalées, c'est des maux de tête, ça ?
Oui, voilà, des maux de tête. Ça peut être aussi de légers vertiges. Ça va être aussi la fameuse sensation de luxation, donc de craquement ou claquement au niveau des articulations temporomandibulaires, ou bien une mâchoire qui va être trop mobile ou pas assez mobile, très rigide. Par exemple, on ne va pas pouvoir ouvrir la bouche correctement pour manger à son aise.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir complètement la bouche, c'est ouais. ça ? Il y a comme un
frein ? On est limité. Normalement, on est à peu près à 3 travers de doigts, comme ça, quand on ouvre la bouche. On peut ouvrir à peu près à cette ouverture-là, de manière standard. Si on n'y arrive pas, qu'on n'est à que 2 doigts ou 1 doigt, c'est qu'on a une limitation d'ouverture de bouche. Donc ça peut être aussi un des signes pour savoir si on a un problème au niveau de l'articulation. Voilà. Ou sinon, quand on parle, on se rend compte qu'on n'articule pas correctement. Et ça peut être aussi un des signes.
Voilà, parce qu'on n'arrive pas là aussi à ouvrir complètement la
bouche. D'autres signes qu'on peut avoir, c'est par exemple la sinusite, qui peut être liée aussi à ce problème de SADAM. On peut avoir une sécheresse buccale. On peut avoir des problèmes otologiques, c'est-à-dire tout ce qui va être, par exemple, lié à l'oreille, par exemple l'hyperacousie, une hypersensibilité, c'est l'hypersensibilité au son, des sons aigus ou des sons très, très, très graves. On peut avoir des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements, des sifflements, des bruits en fait que l'on entend nous-mêmes, mais qui n'existent pas, qui ne sont pas là à l'extérieur, qu'on entend juste à l'intérieur. On peut avoir une sensation d'oreille bouchée aussi, ou un début de surdité, une sensation de moins bien entendre. Ça, ça fait partie des signes du SADAM. Et aussi une sensation de démangeaison à l'intérieur de l'oreille ou à l'intérieur de la gorge, comme envie de gratter sa gorge. Et donc la démangeaison, c'est exactement au niveau du méa acoustique externe. On a souvent envie de gratter. Voilà, parmi les signes qu'on peut trouver le plus souvent.
Et quand on disait que c'est courant, c'est très courant, finalement.
Oui, parce qu'en fait, quand on dit que c'est un syndrome, finalement, c'est qu'on peut avoir soit tous ces signes, soit une partie de ces signes qui sont présents, mais on se dit souvent, ça va passer. Moi, c'est ce que j'ai entendu souvent. Les patients viennent me voir déjà dans un stade où il y a déjà plusieurs symptômes qui se sont révélés et que ça devient handicapant au quotidien. Mais le problème, c'est que c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc,
il ne se voit pas parce qu'il passe inaperçu ou parce que les gens...
Les deux. Il passe inaperçu auprès des soignants, parce que c'est compliqué, comme je disais tout à l'heure, à détecter. Et il passe aussi inaperçu auprès des gens autour de soi, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on porte sur soi et qui est visible, en fait.
On n'a pas la mâchoire, parce qu'on pourrait avoir cette impression que c'est la mâchoire de travers.
Ça peut arriver, mais pas systématiquement. Ça peut être...
Parce que ça se voit un peu quand même quand la mâchoire est de travers.
Ah oui, quand elle est de travers, ça se voit. Mais par exemple, quand on est limité à l'ouverture, on peut dire peut-être que la personne est juste timide, elle ouvre pas la bouche correctement, enfin, ou elle veut pas, elle bougonne. Enfin, voilà. Donc finalement, c'est pas forcément visible.
Bien, on parle du SADAM aujourd'hui qu'on va essayer de bien vous expliquer. Et on parlera tout à l'heure de quelque chose que vous venez d'évoquer, Eptisem. On va parler des acouphènes dans un instant. AVS jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle du SADAM aujourd'hui avec Eptisem Melmalani, qui est notre invité, masseur kinésithérapeute libérale et membre de la Société médicale d'orthopédie dento-maxillo-faciale.
Un jour, vous arriverez à le dire.
Oh, c'était, mais en plus, c'est le SMO de...
Le pire, c'est que ça a changé de nom.
En plus, ça s'appelle comment ?
C'est à peu près ça, pratiquement.
C'est presque ça, bien. Société médicale d'orthopédie dento-maxillo-faciale. Ça se soigne, ça, docteur ?
Oui, ça se soigne.
Bien. Et on parle du SADAM aujourd'hui, le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur.
Voilà, et pour faire simple, c'est tout ce qui est lié avec les douleurs et les dysfonctions de l'articulation de la mâchoire.
Quand j'étais petit, mes parents me disaient « j'ai mal à mes mandibules », mais c'est incorrect de dire « on ne peut pas avoir mal à ses mandibules ».
On n'a qu'une mandibule.
On n'en a qu'une, c'est ça.
L'os, qui est, l'os du crâne, donc la mâchoire supérieure, en fait, c'est un des os du crâne qu'on appelle l'os maxillaire. Voilà. Et en bas, c'est la mandibule. La partie inférieure de la mâchoire, c'est la mandibule qui bouge.
On rappelle pour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure en première partie d'émission ce que c'est qu'un SADAM.
Alors, un SADAM, c'est tout ce qui est lié avec les pathologies, les douleurs, qui causent des douleurs et des dysfonctions de l'appareil manducateur, c'est-à-dire de l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation de la mâchoire.
Et comme c'est un mal, on va dire, diffus, eh bien, ça demande une prise en charge multidisciplinaire.
Hein. Exactement.
C'est ça qui est important.
Exactement.
Et pourtant, alors, les Français qui en souffrent de ce qu'on appelle une errance thérapeutique. Alors, ils sont baladés de service en service avant de comprendre vraiment quelle est la nature du mal qu'ils ont.
Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans un système curatif actuellement, et qu'en fait, il faudrait qu'on soit un peu plus dans un système préventif. Donc, dès l'enfance, déjà, dès les premiers apprentissages de l'hygiène bucco-dentaire, montrer aussi aux enfants comment utiliser leur langue, comment placer leur langue, que ce soit au repos ou quand ils parlent, comment brosser leurs dents, comment respirer, parce que la ventilation aussi, l'apprentissage de la ventilation par le nez, c'est très important, et comment être zen. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc tout
par
ça
exemple,
parce que le stress
le
est
SADAM,
un facteur.
Voilà.
Voilà, le stress est un facteur majeur de ce syndrome en fait, qui
pourquoi on exerce
apprendre.
Des tensions au niveau de la mâchoire quand
on est
stressé.
Oui, parce que quand on est stressé, on serre les dents effectivement, on grince, on ronge ses ongles, on se positionne moins bien, un peu plus en avant, le cou rentré dans les épaules, et tout ça, ça crée des tensions sur toute cette sphère autour de la tête, du cou et de la mâchoire.
En première intention, donc, on consulte son médecin, comme toujours.
Voilà, on consulte son médecin, son dentiste, ou bien son chirurgien oral, si on en a un. Si on a un kinésithérapeute aussi, on lui en parle, et puis du coup, il saura vers qui vous dirigez aussi. Mmh. Alors après, ce sont des kinésithérapeutes qui sont spécialisés en ce qu'on appelle en maxillofacial, donc sur toute la sphère autour de la mâchoire, de la tête et du cou.
Et comment on fait pour déterminer finalement l'origine de la douleur dans la mâchoire ?
On écoute le patient, déjà. On écoute le patient, on écoute son mal-être, on essaie de faire un interrogatoire qui soit assez précis pour se rendre compte que finalement, il y a plusieurs symptômes qui font qu'on peut décrire ce syndrome.
Ouais. En général, les patients consultent pourquoi ?
En général, parce que soit ils ont l'articulation de la mâchoire qui est bloquée la première fois, par exemple, ils ont bâillé et puis ils sont restés bloqués, ou bien ils ont mâché quelque chose de très dur, et du coup ils ont croqué par exemple dans une pomme, dans du pain dur, etc. Et comme c'est trop dur, ils ont croqué trop fort d'un côté, et hop, ils se retrouvent bloqués dans une des articulations.
Ah, en vrai, et là avec
en
impossibilité
ils
refermer.
Ils peuvent pas parler, ils peuvent pas fermer la bouche, donc du coup, en tant que kiné maxillofacial, je me suis plusieurs fois trouvée à cette situation, et ils ont l'impression que c'est la première fois que ça leur arrive, alors qu'en fait, quand on pose vraiment les choses à plat, lors du premier bilan, on se rend compte qu'ils ont déjà eu des petits signes avant-coureurs, mais qu'ils n'ont pas pris la chose en main correctement. Et puis, des fois aussi, qu'ils n'ont pas une hygiène bucco-dentaire, un bon suivi dentaire et oral correct.
Et ça, c'est la base, hein, finalement.
C'est la base de tout.
On va parler des acouphènes. Alors, acouphènes, qu'est-ce que ça veut dire, Iltissem ?
Alors, les acouphènes, ce sont des bruits qu'on entend au niveau de nos oreilles ou à l'intérieur de notre tête. On a l'impression d'halluciner, mais ce n'est pas du tout une hallucination. En fait, ça peut être des bourdonnements, des sifflements, des crépitements, des claquements. Les bruits sont très, très variés, mais en tout cas, ce sont des bruits que nous, on entend, mais que l'extérieur n'entend pas.
D'accord.
Voilà. Donc, il y a à peu près que 5% de bruits qui peuvent effectivement être extérieurement audibles, mais que nous, on va percevoir chez la personne qui a des acouphènes, qu'on va percevoir de manière plus diffuse ou plus développée.
Donc ce sont des sensations auditives. Qu'est-ce qui cause ces bruits que personne n'entend et en tout cas qui ne sont pas à dont l'origine n'est pas extérieure? C'est pas des vrais bruits alors?
Vaste sujet, parce qu'en fait ça peut être un trouble neurologique comme ça peut être un trouble artériel, par exemple une mauvaise irrigation circulatoire au niveau des artères dans cette zone-là, comme ça peut être aussi mécanique. Pour ce qui est de ma spécialisation en tant que kiné maxillofaciale, moi je ne vais pas m'occuper de toute la sphère ORL, inflammatoire, infectieuse, artérielle, etc. Je vais plus m'occuper de tout ce qui va être mécanique, neuromusculaire. Mmh. C'est-à-dire qu'il va être lié avec la posture, avec des dysfonctions dans la manière de mâcher, dans le positionnement de sa langue, dans la respiration, dans la déglutition, parce que la déglutition salivaire, ça va être, si elle est mal faite, ça va être un des éléments déclencheurs aussi. Et donc du coup, on réapprend plus tout ce qui est au niveau de la mécanique de cette zone.
Mmh. Il existe plusieurs types d'acouphènes d'ailleurs.
Tout à fait. Donc les somatosensoriels et les non-somatosensoriels. Et après, il y en a encore plein d'autres. Complexe à expliquer, mais en tout cas il y a plusieurs spécialisations qui s'occupent de ça. Il y a des fédérations aussi en acouphénologie qui prennent en charge les patients de manière pluridisciplinaire, et c'est très simple, vous trouverez sur internet toutes les spécialisations qui s'occupent de ça.
En tout cas, pour ceux qui nous écoutent qui souffrent d'acouphènes, mais pour ceux qui nous écoutent et qui vivent avec des personnes qui souffrent d'acouphènes, surtout ne pas minimiser ce que ressentent les gens, parce que c'est vrai que souvent on leur dit mais non, mais qu'est-ce qui se passe, tu racontes n'importe quoi,
c'est pas dans la tête.
Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que ça a un réel impact sur la qualité de la vie de ceux qui en souffrent.
Autre chose qui est très important à dire, c'est qu'on peut faire quelque chose. Voilà. Alors que très souvent, moi, les patients qui sont venus me voir, ils sont désespérés, on leur a dit on peut rien faire pour vous, donc on vous envoie voir le kiné, puis on verra bien ce que ça donne. Alors, le kiné, il peut faire quelque chose à partir du moment où il est spécialisé déjà, et puis ensuite, si vraiment la cause
n'est pas infectieuse,
n'est ni infectieuse, ni inflammatoire, ni artérielle, etc. Parce qu'alors là, ça va être de chaque spécialiste, l'artériologue, l'angiologue, ou bien le neurologue ou l'ORL qui vont prendre en charge.
D'accord. Ouais. Quel est le lien finalement entre les acouphènes dont on parle et le SADAM? C'est un des symptômes du SADAM ou pas, les acouphènes?
Alors, c'est un des symptômes du SADAM. C'est pas les acouphènes qui causent le SADAM, mais les acouphènes sont un des signes de SADAM. C'est rare qu'on puisse avoir des acouphènes sans avoir d'autres signes avec. Souvent, on va avoir acouphènes et douleurs, ou bien acouphènes et crispations musculaires. Donc, du coup, on va avoir les muscles masticateurs, les muscles du cou qui vont être raides. Souvent, on va avoir des personnes qui sont très fatiguées ou très sollicitées professionnellement, et donc aussi avec de fortes contractures musculaires ou une posture aussi de fatigabilité. On est mal posturé. Donc, c'est un ensemble.
Comment vous intervenez, vous, en tant que kiné, donc finalement sur les acouphènes, comment vous traitez?
Alors, j'ai fait un mémoire l'année dernière sur la prise en charge des acouphènes avec des techniques de décontraction musculaire, et puis aussi sur l'utilité d'utiliser la cupping thérapie, donc les ventouses, sur des zones de tension.
Alors, là, j'aimerais qu'on parle justement de cette cupping thérapie. On a vu que la réglementation a changé concernant la cupping thérapie, notamment.
Elle n'a jamais changé. Il y a toujours eu anguille sous roche par rapport à ce sujet.
Avant les infirmiers, si j'ai bien compris, les infirmiers pouvaient pratiquer la cupping thérapie, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, ça a changé.
Oui, on est d'accord. Pour ma spécialisation, ça n'a jamais changé. En tout cas, pour les kinésithérapeutes, on n'a jamais eu aujourd'hui.
Ce qu'on appelle la JAMA, pour ceux qui nous écoutent.
Oui, voilà. Bon. Alors, ici, moi, je parle de vraiment ventousothérapie. Le sujet de mon mémoire, c'était sur la ventousothérapie sèche. Donc, c'est-à-dire le fait de poser une ventouse sèche sur des zones musculaires où il y a une accumulation de toxines par hypomobilité ou hypercontraction de muscles sous tension. Voilà. Donc, de ce protocole-là, on a découvert qu'effectivement, il y avait une utilité à utiliser cette technique-là. Ça peut être une technique parmi d'autres, c'est une technique complémentaire. Après, dans ce qui se fait de manière plus courante, les techniques de massage, Déjà au niveau des muscles pour décontracturer, pour revasculariser la zone sur laquelle ça ne veut plus trop bouger. Les techniques de mobilisation, donc en fait on va refaire mobiliser l'articulation correctement, la tête, le cou, les épaules, même jusqu'au dorsal. Et puis remobiliser le visage dans la bonne, dans le bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes, par exemple, dans leur manière de parler, ils vont pas articuler correctement. Donc là, on travaille en complémentarité avec un orthophoniste. Ça va être, par exemple, aussi chez la personne qui a du bruxisme, lui apprendre qu'elle peut détendre ses joues.
Mais sur les acouphènes, donc, c'est vraiment...
C'est lié.
D'accord.
C'est lié. Parce qu'en fait, l'hyperpression musculaire de toute la zone du visage, de la tête et du cou va aussi se jouer au niveau de l'oreille. Si on décomprime aussi, bah peut-être qu'aussi on a un peu moins de sensations d'oppression. Parce qu'en fait, c'est par une hyperpression aussi que se crée cette sensation de sifflement, de bruissement, etc. au niveau de l'oreille.
Donc, on peut faire quelque chose pour les acouphènes.
Oui, on peut faire quelque chose pour les acouphènes.
C'est ça qu'il faut dire aux gens.
Voilà. Après, si le kiné n'y peut rien, il y a d'autres spécialistes. Il y a les sophrologues, il y a les chirurgiens oraux, les stomatologues qui peuvent aussi proposer des gouttières de désocclusion. Voilà, c'est-à-dire des gouttières qui permettent de décomprimer la pression qu'on se met entre les dents du haut et les dents du bas. Mmh. Normalement, les dents du haut et dents du bas ne doivent se toucher qu'au moment où on mastique, au moment où l'on mange. Quand la bouche est fermée au repos,
bon,
oui.
Alors, je suis mal,
si
moi,
on
alors,
est bouche fermée,
touche, là.
Alors c'est que vous êtes stressé, Philippe.
Bah, il y a de quoi. Moi, quand je suis assis en face de vous, je veux dire que je serre les dents.
Pourtant, je suis plutôt cool avec vous.
Ah non, en fait, elles doivent pas toucher. Non, vous êtes sérieux?
Non. En fait, quand on est bouche fermée, alors vous testez. Je l'avais montré lors d'une émission précédente, mais pour remontrer, il y a la position de langue où on doit avoir la pointe de la langue au palais. Ici, et quand on a la pointe de langue au palais et la bouche fermée, on doit être détendu au niveau des joues et on doit avoir les dents supérieures et dents inférieures avec un léger espace. Ça ne doit jamais se toucher. Si ça se touche, c'est qu'il y a un mauvais articulé, dentaire.
Ça se touche ?
Tout
le monde se touche là.
Vous êtes tous stressés sur Beurre FM. Il va falloir des séances de relaxation sophrologie là.
Franchement, je pense que c'est pas au budget prévu pour 2020, mais peut-être 2021, on verra. Donc, on peut mettre des gouttières, et ce sont des gouttières qui se portent toute la journée ou...
Alors, chez certaines personnes, ça peut être la journée, mais c'est pas très fonctionnel. C'est vraiment dans les cas très 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 très, très graves. C'est plutôt de nuit. Ça se porte plutôt de nuit, et puis on va la retirer le matin au réveil, et en fait. Ça va permettre justement de décomprimer. Après, l'ostéopathe aussi peut y faire parce qu'en fait, il peut mobiliser les os au niveau du crâne, au niveau de l'articulation aussi pour replacer. Et vous pouvez aussi aller voir quelqu'un pour apprendre la relaxation et penser à bien retourner voir régulièrement son dentiste pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et bien réexpliquer aussi comment se brosser les dents correctement.
D'accord. Voilà. En gros, une prise en charge d'acouphène, ça prend combien de temps, combien de séances ?
Alors, ça va être vraiment au cas par cas parce que ça va être en fonction de tous les symptômes qui vont être liés aussi aux acouphènes. Si avec des acouphènes, par exemple, avec une mauvaise posture, la mauvaise posture, ça va pas changer du jour au lendemain. Il faut compter bien 3 mois, au moins 3 à 6 mois pour réapprendre correctement à se posturer. Donc dès lors, après, on n'en parle plus. Mais si c'est aussi par rapport au stress et qu'on a trop serré les dents, à ce moment-là, c'est pareil. Ça va être tout un apprentissage à se détendre et à changer son hygiène de vie, à mieux dormir, à s'écouter un peu plus, à faire du sport. Donc ce sont des choses, en fait, c'est vraiment, faut voir de manière holistique et il faut vraiment voir dans la globalité. Et c'est au cas par cas, en fait. Ça dépend la cause qui a créé ces acouphènes.
Bien, alors tout à l'heure on va parler d'une pathologie dont on parle plus aujourd'hui, en tout cas qui est plus populaire mais qui est encore mal connue, ce sont les apnées du sommeil. Mm-hmm. Et on verra comment, grâce à vous, prendre en charge le syndrome du Saddam. AVS jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
On est tous en train de tirer la langue en studio pour savoir si la langue est bien placée. Mon invité s'appelle Ibtissem Belmadandi aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes membre de la Société médicale d'orthopédie dento-maxillofaciale. Vous voyez, je me suis entraîné pendant la pub. Et kinésithérapeute libérale. Voilà. Bon, on parle de ce syndrome, le syndrome de Saddam aujourd'hui, le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur. Voilà.
C'est ça.
Et en fait, c'est un syndrome qui est assez courant, mal connu, non traité, non diagnostiqué, et qui a beaucoup de symptômes, hein, dont on a commencé à en parler de quelques-uns tout à l'heure. Donc peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce qu'on a dit ce matin. Ne courez pas chez votre généraliste pour dire, voilà, j'ai écouté la radio ce matin, je souffre d'un SADAM quand même.
Non, mais c'est vrai. Mais par contre, oui, quand même, si on est alerté là, en écoutant cette émission, quand même consulter, parce que faut pas laisser les choses s'envenimer et qu'il faut vraiment avoir un bon suivi. Et surtout, s'il y a une des choses à retenir, c'est que si vous avez des dents manquantes, remplacez-les. Voilà, si vous êtes stressé, détendez-vous et ayez une meilleure hygiène pour vraiment éviter ça.
Parce que tout à l'heure, vous avez parlé par exemple des douleurs cervicales, des vertiges aussi. Il y a beaucoup de vertiges qui ne sont pas expliqués, donc il peut y avoir beaucoup de causes aussi.
Hein. Voilà, mais on oublie cette cause-là. La cause mécanique, on oublie souvent parce qu'effectivement, on pense aux vertiges forcément de cause plutôt autour de la sphère ORL. Et quand on ne trouve pas de signes ORL, ben, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en fait, si, il y a à faire. On peut aller voir l'ostéo, on peut aller voir le kiné et on peut aider à soulager ça.
Alors l'apnée du sommeil, on commence à en parler de plus en plus, encore mal connue, mais c'est surtout que la plupart des gens qui en souffrent ne le savent pas.
Oui.
C'est surtout l'entourage qui s'en rend compte.
Les
parce
proches.
Que eux-mêmes ne le savent pas, s'ils dorment seuls.
Tout à fait. Alors après, il y a des facteurs à risque, forcément, l'embonpoint, la mauvaise hygiène de vie, le sommeil trop tardif, et puis la mauvaise hygiène aussi bucco-dentaire, la mauvaise ventilation, sont des causes importantes de cette apnée du sommeil.
Mmh.
Donc, comme je disais tout à l'heure, l'important c'est vraiment de consulter régulièrement, de demander aussi à ses proches, est-ce que je ronfle la nuit déjà, parce qu'un des signes avant-coureurs c'est le ronflement. Ronfler, il y a ronflement et ronflement. Si vous ronflez, vous avez un
voilà,
risque d'être
énormément de personnes ronflent.
Oui, mais il y a ronfler et ronfler. Alors, quand on ronfle, mais que le ronflement est vraiment devient gênant dans le sommeil, que ça nous réveille. À ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions. On se pose aussi des questions quand on se lève le matin et qu'on est très fatigué, alors que pourtant on a eu son quota
d'heure
horaire. Ouais. Voilà. Mmh. Et vérifiez aussi si, par exemple, vous avez bavé sur votre coussin au réveil, si vous commencez à vous réveiller plusieurs fois dans la nuit. Voilà. Donc, tout ça peuvent être des signes. Dès lors que ça commence à être une gêne au quotidien, il faut s'en inquiéter.
Mmh. Comment est-ce que vous les prenez en charge, vous, les apnées du sommeil, par exemple, en kiné?
Alors, en kiné, déjà, on va commencer par la respiration. On va regarder si la personne respire par le nez ou par la bouche. Et on va lui réapprendre à respirer autant à l'inspiration qu'à l'expiration par le nez. C'est un processus qui est assez long, mais qui en vaut la peine. Parce qu'une fois qu'on a automatisé la respiration par le nez, on est pratiquement sûr d'être débarrassé de l'apnée du sommeil. Mmh. Après, on remet à l'effort.
C'est pour ça qu'ils proposent d'avoir des masques maintenant, aujourd'hui,
alors,
pour la nuit. Hein.
Mais parce que le masque, en fait, c'est le traitement de dernier recours. Quand tout le reste, finalement, est presque pratiquement trop tard, parce qu'on considère que c'est trop tard, alors qu'en fait, il faudrait remettre les gens à l'effort aussi, ce que j'allais dire. On remet les gens à l'effort. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est plutôt sédentaire, et sédentaire, attention, être tous les jours au bureau assis, c'est déjà être sédentaire. Sédentaire, c'est pas forcément rester dans un fauteuil devant la télé toute la journée. Sédentaire, c'est aussi au travail. Quand au niveau de l'ergonomie du travail aussi, on a une mauvaise posture toute la journée, ça y fait, parce que du coup, au niveau de la position du cou, même si on voulait respirer par le nez, on pourrait pas.
Mmh.
Voilà.
Donc ça veut dire que déjà, faites de l'exercice.
Faites de l'exercice.
C'est le premier traitement.
Faites de l'exercice.
Perdez quelques kilos.
Voilà, posez-vous la question de est-ce que vous respirez correctement ou pas. Est-ce que vous êtes essoufflé, par exemple, en montant l'escalier, en faisant quelques mètres de marche. C'est des petits signes comme ça de dyspnée, c'est-à-dire d'essoufflement respiratoire. Donc tout ça peut susciter quand même des questionnements.
Il y a une pathologie dont on a parlé tout à l'heure, c'est le bruxisme. Alors le bruxisme, qu'est-ce que c'est ?
Le bruxisme, c'est que lorsqu'on serre les dents ou lorsque l'on grince des dents.
Mmh.
Voilà.
Alors quand vous dites grincer des dents, c'est-à-dire ?
On frotte les dents du dessus et du dessous les unes contre les autres au point qu'elles peuvent même se casser.
C'est comme un claquement de dents ou ça n'a rien à voir ?
Non, ça, c'est pas le claquement des dents. Claquement des dents, par exemple, quand on a froid, c'est pas ça.
Non,
c'est vraiment que comme on est stressé, on serre la mâchoire, les muscles masticateurs, au lieu de s'en servir que quand on mâche, mais en fait, on est toujours en train de mâcher. D'ailleurs, mâcher un chewing-gum, c'est un des facteurs à risque à devenir bruxomane, en fait.
Bruxomane.
Voilà. Mmh. Parce que, en fait, on est toujours en train de vouloir avoir le contact dentaire des dents en haut et en bas.
Mmh. Voilà. Alors, le bruxisme, ça intervient à quel moment ? Ça intervient la nuit ou ça peut intervenir pendant la journée ?
Ça peut être pendant la journée. En général, ça commence par la nuit parce qu'en fait, c'est une manière de pouvoir évacuer le stress qui s'est accumulé dans la journée. Mmh. Comme, voilà, je sais pas moi, quelqu'un qui va se gratter, ou il y a des gens qui se mutilent par exemple, mais le bruxisme, c'est une forme d'évacuation du stress accumulé. Parce qu'on n'a pas évacué d'une autre manière, par le sport ou par le fait de faire du cardio ou chanter ou une autre activité.
Mmh. D'accord. Voilà. Et donc ça devient une habitude,
Une fois qu'on s'est habitué à le faire la nuit et que finalement, si jamais le stress, on n'a pas écouté l'alerte, on n'a pas senti que le matin on se lève et que c'est raide, etc., on finit par s'y habituer et on va continuer à le faire après en journée. Voilà. Même quand on parle, on va parler comme ça avec les dents serrées. Voilà. Ou bien ça va être chez quelqu'un, par exemple, qui, parce qu'il a besoin du contact, d'un contact dentaire, va prendre un stylo, ronger son stylo, ronger ses ongles. Il lui faut forcément un contact, en fait. Mmh. Voilà, c'est une manière d'évacuer le stress, mais finalement, c'est néfaste.
Donc là, Iptisem, comment est-ce qu'on prend en charge le bruxisme ?
Pareil, c'est très global. En tant que kiné, on va apprendre à détendre les muscles à l'intérieur des joues. Les muscles au niveau du cou. On va apprendre à positionner sa langue correctement, parce qu'en fait la langue aussi, ce sont des muscles qui vont venir s'insérer ici en dessous de la mandibule, et tous ces muscles là quand
donc
ils
là
sont
c'est sous le menton
sous hein. le menton ouais. voilà mmh. tous ces muscles là quand ils sont très tendus, même si on avait les muscles du joue relâchés, on pourrait pas détendre au niveau des mâchoires.
C'est sous forme de quoi ? D'exercice, de gymnastique ?
C'est un ensemble. Donc, on peut déjà commencer par le massage. On peut mettre du chaud sur les zones qui sont vraiment très tendues. Du froid, si vraiment on sent une inflammation ou qu'on a un gonflement, à ce moment-là, on ne va pas aller mettre du chaud, on y met du froid. Ensuite, c'est des étirements de la mâchoire. Par exemple, vous parlez d'une mâchoire qui va être sur le côté. On va réapprendre à la personne à venir mettre sa mâchoire de l'autre côté, toujours en respectant l'infradouloureux, en allant en dessous du seuil de douleur acceptable.
Mais là, on arrive à obtenir, grâce à des exercices,
un gain de mobilité. Et après aussi à une détente musculaire et à ne plus grincer des dents. Mmh. Et c'est comme toute chose, quelque chose qu'on est habitué à faire de manière automatique, il va falloir réapprendre à aller dans le sens inverse, désautomatiser ce mauvais réflexe et ensuite automatiser le bon réflexe.
Donc c'est comme la prise d'habitude, tout ça.
Voilà, c'est ça, ça met du temps. Mmh. Ça met du temps. Et il faut aussi avoir un engagement et vraiment avoir envie de mettre ces choses en place. Après, il y a plein de petits exercices qu'on peut faire au quotidien. D'ailleurs, les gens qui jouent d'un instrument avant n'ont pas ce problème-là, parce qu'en fait, dans le fait de souffler, ils détendent bien les joues, que ce soit la flûte, la trompette ou le djeridou. C'est pas le djeridou qu'on appelle le... Je me souviens plus.
En tout cas, un instrument avant.
Ouais, l'instrument avant, voilà. Donc, en tout cas, dans tous ces instruments-là, effectivement, et dans le fait de chanter, dans le fait de détendre tous ces muscles, on permet d'éviter le bruxisme.
Alors, pour tous ceux qui ont découvert le SADAM comme moi aujourd'hui, comment est-ce que ça se soigne, Iptisem ?
Le SADAM ?
Ouais.
Alors, c'est pareil que ce que je viens de dire tout à l'heure. En fait, on le soigne.
On commence par quoi ? Alors, déjà par le diagnostic, il faut faire un diagnostic.
Alors déjà, on va consulter, on va consulter des spécialistes, on va consulter son médecin, on va consulter son dentiste, et puis ensuite ils vous dirigeront vers d'autres options. Et puis on parle en fait. Déjà, on parle de ce qu'on a. Il n'y a pas de honte à entendre des bruits, il n'y a pas de honte à serrer les dents. Il faut oser en parler. Il n'y a pas de honte à avoir une dent manquante. Il faut juste la combler. Donc déjà, on en parle. Et puis, une fois qu'on en a parlé, une fois que l'interrogatoire, le bilan est fait, on essaye, même si ça va prendre du temps, même si c'est un investissement dans la durée et un investissement aussi financier, il faut y aller quand même. Il y a maintenant
pourquoi
des facilitations.
Alors, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser traîner et qu'il faut le prendre en charge ?
Alors, il faut vraiment le prendre en charge parce que ça ne pourra caler en s'empirant si c'est pas pris en charge correctement, parce que notamment ne serait-ce que dans l'exemple d'une dent qui manque, s'il en manque une, il va en manquer d'autres, parce qu'en fait du coup comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. Donc s'il y a un vide dans la bouche, bah forcément les dents après vont se déplacer, ça va aller dans tous les sens, et au lieu d'avoir juste une dent manquante, ça va devenir un chantier. Il va falloir faire de l'orthodontie, ensuite mettre un implant, ensuite refaire de l'orthodontie ou bien sinon une autre chirurgie, et puis après derrière. Enfin, donc c'est toute une complexification au lieu de prendre tout de suite. Voilà, c'est sans parler de greffes qui vont être nécessaires. Enfin, donc voilà, déjà de ça. Et puis en plus derrière, au niveau sensation, c'est plus juste une gêne d'un aliment qui rentre dans le trou où manque la dent. Ça va vraiment être, comme on parlait là, un syndrome. Ou bien ça va être dans ce syndrome, plein de symptômes. Comme on disait, acouphènes, céphalées, vertiges. Donc si on peut s'éviter tout ça, on prend en charge dès le début, petit à petit. Maintenant, il y a des aides, il y a plein de solutions pour pouvoir améliorer tout ça.
Il y a la loi Macron, donc avec le reste à charge zéro.
Pour revenir après au niveau vraiment de la...
Ah, vous me laissez tout seul avec la loi Macron, merci.
Pour revenir
donnez-vous du mal.
allez-y. Pour revenir à... Ben, il y a le fameux charge zéro.
Mais c'est ça ce que je dis.
D'accord. Pour revenir à la prise en charge au traitement, donc comme je disais, donc le bilan, une fois que le bilan est fait, ben le médecin va savoir vous envoyer vers les bons spécialistes, ou sinon ben sachez que ça tourne autour globalement de l'ORL, du chirurgien dentaire, chirurgien oral qui est un peu plus spécialiste, qu'on appelait avant le stomatologue, du kiné, de l'ostéo, et après tout ce qui va être autour du bien-être, que ce soit l'activité physique, donc prenez un coach sportif, l'hygiène de vie, ça c'est du bon sens, l'hygiène bucco-dentaire, si vous savez pas, les tutoriels n'en manquent pas, sinon vous demandez conseil auprès de votre chirurgien dentaire pour avoir les bons conseils, et ensuite vous avez le kiné, l'ostéopathe, l'orthodontiste et le sophrologue.
Ibtissem, j'aimerais qu'on se quitte sur un petit exercice que vous allez nous communiquer pour libérer notre mâchoire.
Comment s'appelle l'instrument dont je parlais tout à l'heure? Le didgeridoo, c'est ça, j'ai pratiquement bien dit.
Didgeridoo.
Bah, justement.
Alors,
justement,
comment on libère notre mâchoire ce matin?
Détendez-vous, amusez-vous, souriez, ça va être déjà la clé. Ayez une bonne hygiène de vie. Et puis surtout, le travail c'est bien, mais apprendre à travailler sur soi c'est déjà le plus important, c'est l'essentiel.
Et un
exercice tout bête, en parlant de didgeridoo pour y revenir, mais ça va être de faire vibrer ses joues.
Et ça c'est bien.
Ouais.
Et ça c'est bien.
Comme le cheval, il le fait pas pour rien, le cheval, je suis sûre.
Ça libère sa mâchoire.
Mais oui, ça libère sa mâchoire. Vous avez vu la masse que c'est, la mâchoire d'un cheval?
Ah ouais.
Voilà.
Faut pas nous le refaire parce que moi j'ai mal vu comment il fallait faire. Et ça passe très bien à la radio. Bon, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube, réécouter les podcasts sur beurrefm.net. Ibtissem Belmadani, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
On consacrera une émission complète aux maux de tête et à la migraine qu'on n'a pas évoqué ce matin, mais c'est vrai que ça demandait une émission à part entière. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain, 9h-10h sur BeurFM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurfm.net et l'appli BeurFM.